Laudetur Jesus Christus.
L'abus des enfants est méprisable et atroce. Nouvelle charge du pape contre les abus et la maltraitance infantile. Nous revenons sur sa catéchèse lors de l'audience générale. C'était une demande de longue date du Saint-Siège, libéré des prisonniers à Cuba, vœu exaucé à La Havane en lien direct avec le jubilé et une action parallèle américaine. L'île communiste relâche 553 détenus. Les relations entre le Venezuela et l'Europe continuent de s'envenimer. Caracas limite à 3 par pays les diplomates français, italiens et néerlandais qui dénoncent une escalade. Les espoirs de paix et de réconciliation en Centrafrique souhaités par les évêques du pays. À peine réunis en assemblée plénière, ils s'inquiètent des radicalisations politiques en cours.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour. L'abus des enfants est méprisable et atroce. Comme la semaine dernière, le pape a évoqué l'exploitation des enfants dans sa catéchèse lors de l'audience générale. À 2 semaines d'un sommet inédit au Vatican convoqué par le pape sur les droits des enfants, l'évêque de Rome a dénoncé les différentes formes d'abus et de maltraitance dont des millions d'entre eux sont victimes. Il a pointé la responsabilité de la pauvreté et de notre indifférence, exhortant à écouter la souffrance de ceux qui restent sans voix et à ne pas se rendre complices de leur exploitation. Xavier Sartre.
Ils sont exposés à des travaux particulièrement dangereux, esclaves de la traite à des fins de prostitution ou de pornographie, contraints à des mariages forcés. Le pape François dénonce les nombreuses façons d'abuser des enfants et de les maltraiter. Autant d'actes méprisables et atroces, une très grave violation des commandements de Dieu. Le Saint-Père rappelle qu'aucun enfant ne devrait être abusé. Un seul cas est déjà trop, affirme-t-il, pointant du doigt la pauvreté généralisée, la marginalité, le chômage et la précarité qui poussent des enfants à se livrer au trafic de drogue et aux activités illicites les plus diverses. Le souverain pontife fustige aussi une fracture humaine et sociale inacceptable entre ceux qui peuvent rêver et ceux qui doivent succomber, et qu'il est d'autant plus que Jésus nous veut tous libres et heureux. Il nous demande de nous arrêter et d'écouter la souffrance de ceux qui restent sans voix, sans éducation. Combattre l'exploitation, notamment celle des enfants, c'est construire un avenir meilleur pour l'ensemble de la société, s'exclame le pape. Pour cela, il ne faut pas se rendre complice, notamment du travail infantile. Chacun peut être une goutte qui, avec beaucoup d'autres gouttes, peut devenir une mère, poursuit-il, invoquant Sainte Thérèse de Calcutta, qui peut nous accompagner pour voir les petits invisibles, les trop nombreux esclaves d'un monde que nous ne pouvons pas laisser à ces injustices, parce que le bonheur des plus faibles construit la paix de tous.
Xavier Sartre, à l'issue de l'audience générale, le pape a aussi demandé des prières pour la conversion des cœurs des fabricants d'armes qui, dit-il, contribuent à tuer avec leurs produits. Juste avant l'audience en salle Paul VI, le souverain pontife argentin a reçu en privé les directeurs nationaux d'une trentaine de caritas sud-américaines et caribéennes, les encourageant à la sauvegarde de la dignité humaine dans leur travail. Restons dans les Caraïbes où les prières du pape pour la libération de prisonniers à Cuba ont été en partie exaucés. Le gouvernement communiste a annoncé cette nuit que 553 détenus seraient libérés dans l'esprit du jubilé ordinaire de 2025. Parallèlement, le président américain Joe Biden a retiré Cuba de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Jean-Charles Puzolu.
C'est le résultat d'une médiation discrète, constante et efficace de la diplomatie du Saint-Siège. À l'aune de l'année sainte pour laquelle François a appelé à des formes d'amnistie et de remise de peine dans la bulle d'indiction du jubilé, c'est au tour du gouvernement cubain d'annoncer une large mesure de grâce. Début janvier, indique une note du ministère cubain des Affaires étrangères, le président Díaz-Canel a adressé une lettre au souverain pontife dans laquelle il a communiqué la décision d'accorder la liberté à 553 prisonniers condamnés pour diverses infractions. Parallèlement, le président américain a informé le Congrès de son intention de lever partiellement les sanctions contre La Havane et de retirer Cuba de la liste noire des pays soutenant le terrorisme, une mesure punitive imposée par Donald Trump en 2021. Tout comme le gouvernement cubain, la note publiée cette nuit par la Maison-Blanche salue l'action diplomatique de l'Église catholique qui a facilité un tel accord. La diplomatie du Saint-Siège à Cuba n'en est pas à son coup d'essai. Sous l'impulsion du pape François, elle avait abouti en décembre 2014 au rétablissement des relations diplomatiques entre Washington et La Havane et à une poignée de main historique entre les deux présidents d'alors, Raúl Castro et Barack Obama.
Jean-Charles Puzolu, plus de détails à l'adresse vaticannews.va. Accroître l'effort de défense européen face à la Russie, une nécessité absolue selon le président finlandais Alexander Stubb. Les vacances sont terminées, juge-t-il, plaidant la mutualisation des défenses ainsi que l'étroite collaboration avec les États-Unis. Et le fossé continue de se creuser, pas qu'entre l'Occident et la Russie, mais aussi entre l'Europe et le Venezuela. 4 jours après son investiture contestée pour un 3e mandat consécutif, le président vénézuélien Nicolas Maduro s'attaque aux États qui refusent de reconnaître sa victoire à la présidentielle de juillet dernier. Parmi eux, la France, l'Italie et les Pays-Bas, dont le nombre de diplomates autorisés à travailler dans la République bolivarienne a été limité à 3. William Gazo.
3 diplomates accrédités et pas un de plus. C'est la nouvelle qu'ont reçue les chancelleries françaises, italiennes et néerlandaises mardi 14 janvier. En cause, l'attitude de ces pays jugés hostiles envers le régime, explique Caracas. Une conduite, je cite, caractérisée par leur soutien à des groupes extrémistes et leur ingérence dans les affaires du pays, affirme le ministère vénézuélien des Affaires étrangères. Les diplomates des 3 pays européens devront aussi disposer d'une autorisation écrite du même ministère pour pouvoir s'éloigner de plus de 40 km de la place Bolivar à Caracas. Cette décision symbolise, en tout cas, la détérioration des relations déjà mauvaises entre le régime chaviste et les pays occidentaux depuis l'investiture de Nicolas Maduro le 10 janvier. Tandis que des soupçons de fraude pèsent sur les élections et que le pouvoir chaviste se refuse toujours à publier les preuves de sa victoire, de nombreux États occidentaux refusent d'accorder la moindre légitimité au président Maduro. La France, dans une déclaration conjointe avec le Brésil, a d'ailleurs appelé vendredi le président vénézuélien à reprendre le dialogue avec l'opposition en vue d'une transition pacifique du pouvoir. De son côté, l'Italie reconnaît même officiellement le candidat de l'opposition Edmundo González comme président élu du Venezuela. Bogota, William Gazo pour Radio Vatican.
Et l'Italie justement annonce ce matin avoir convoqué le représentant diplomatique du Venezuela à Rome après ses mesures de restriction. C'est l'un des grands rendez-vous internationaux de l'année 2025 et l'on apprend que l'Inde coprésidera avec la France le sommet de Paris sur l'intelligence artificielle, annonce la ministre française de l'IA. Celui-ci doit avoir lieu les 10 et 11 février sous la verrière du Grand Palais dans la capitale française. De nombreux chefs d'État, d'organisations internationales, chercheurs et entreprises se pencheront sur un développement raisonné de l'IA, sujet d'attention majeur pour le Saint-Siège. Rappelons que le pape s'était spécialement rendu au G7 en juin dernier pour une session consacrée à cet outil technologique. Et l'un des usages de l'intelligence artificielle les plus controversés est celui qui s'applique aux conflits, comme la guerre en Ukraine, où la Russie vient de lancer ce matin une nouvelle attaque massive contre le réseau énergétique ukrainien. 120 missiles et drones ont provoqué des coupures d'électricité dans plusieurs régions. Le président Zelensky se trouve lui à Varsovie pour, selon son cabinet, des négociations sur la guerre, les armes et les sanctions. Une escalade dangereuse dans les Balkans dénoncée par la Serbie. Les autorités kosovares ont fermé aujourd'hui 10 municipalités parallèles serbes, dont l'une dans la capitale, Pristina. Des élections législatives sont prévues le 9 février au Kosovo. Le président centrafricain vient d'entamer lui une visite officielle à Moscou. Faustin Archange Touadéra doit s'entretenir avec Vladimir Poutine sur fond de renforcement de la présence russe en Afrique. En interne, les défis de ce pays pauvre d'Afrique francophone ne manquent pas. Au terme de leur assemblée plénière, les évêques centrafricains réunis à Bangui se sont inquiétés en particulier des clivages et radicalisations politiques à l'œuvre dans le pays. Monseigneur Nestor Désiré Nongo Aziagbia, évêque de Bossang Goa, à 300 km au nord de Bangui, nous livre son regard sur les intérêts suprêmes de la nation.
Nous constatons malheureusement qu'il y a une sorte de clivage au sein de notre société nationale entre les hommes politiques. Puisque tout le monde se réclame du président fondateur Barthélemy Bouganda, et nous les exhortons à suivre son exemple, à devenir des facteurs, des promoteurs d'unité au sein de notre nation. Nous sortons d'une longue crise qui a eu des effets pervers sur le développement et le bien-être du peuple centrafricain. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de retomber dans ces travers-là, d'où la nécessité de cette interpellation. Tout développement passe nécessairement par le respect de l'autre, un environnement sain et un environnement serein dans lequel on peut se développer chacun à son rythme, mais dans le respect des autres. Donc nous devons être tous des acteurs dans le domaine de la paix, dans le domaine du vivre ensemble, de la dignité de l'autre.
Des propos recueillis par Françoise Niamine. Ainsi prend fin cette édition. L'actualité du pape, du Saint-Siège et du monde revient ce soir à 18h, présentée par Olivier Bonnel. Très belle journée.